France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les studios de guitare, ravi de vous retrouver sur France Musique chaque semaine. Il y a quelques jours, Sergio et Odair Assal étaient en France pour des concerts, notamment un à Paris, à la salle Cortot, et un autre à Valence pour le festival Drôme de Guitare. Ces concerts étaient la conclusion d'une tournée internationale grandiose avec laquelle ils célébraient leurs 60 années d'existence en tant que duo. Et j'ai eu la chance d'être dans le public, c'était vertigineux et ça m'a donné envie de réécouter leur musique avec vous aujourd'hui. Ensuite, on continuera avec encore une histoire de duo et encore une histoire de concert. Le 13 novembre dernier, c'était Thibaut Garcia et Antoine Morinière qui donnaient leur version des variations Goldberg dans la salle de la Cité de la Musique à la Philharmonie de Paris. Et je suis allé leur rendre visite le jour même alors qu'ils faisaient leur répétition sur scène pour recueillir leurs sentiments à quelques heures du live. Dans Guitare de légende à 14h20, nous recevons Elodie Broustovski et sa guitare romantique. Elle prépare la sortie d'un album avec cet instrument pour le début de l'année prochaine. Elle nous jouera un extrait et nous en parlera en fin d'émission. Mais pour l'heure, on commence en musique avec les frères Assad. Thank you. Toccata Choro de Radames Gnatali dans les doigts des frères Assad. Légèreté, virtuosité, souplesse, trois ingrédients essentiels de leur identité musicale. Le tempo est à la fois très solide et complètement malléable. Ils arrivent à être parfaitement carrés dans chaque ralenti, chaque accélérando, chaque rubato. C'est comme s'ils respiraient ensemble. Il y a un vrai mystère là-dedans. Ça paraît totalement naturel. On n'a pas l'impression qu'ils aient particulièrement travaillé cet aspect-là. C'était juste déjà là. C'est comme pour les départs des morceaux sur scène, ils se regardent dans les yeux et à un moment donné, ils partent ensemble. Thank you. Les frères Assad dans une petite sonate de Scarlatti, la K96, issue de leur album Baroque sorti en 1993. Un enregistrement qui avait fait la révolution dans le monde guitaristique à cette époque, tellement l'interprétation était nouvelle, pleine d'idées, pleine de vie. C'est vraiment un disque qui a tout changé. Dans la famille Assad, Georges, le père, est mandoliniste et Sergio raconte que lorsqu'il était petit, il passait son temps à l'extérieur de la maison pour faire de la musique. Et lorsqu'Odaï s'est mis à jouer, très facilement d'ailleurs, de la guitare, le père était très heureux et fier et passait davantage de temps avec lui pour apprendre les bases de l'instrument. Sergio ne voulait pas être en reste et il s'est donc mis à accompagner son frère. Et dans cet extrait, ils sont tous les trois réunis autour de la musique de Jacob do Bandolim.
Thank you.
Évidemment, les frères Assad ont un ancrage très fort dans la musique brésilienne et dans le répertoire lié à la guitare classique. Mais ils sont avant tout très curieux, éclectiques. Ce sont de grands compositeurs et improvisateurs. Un art qu'ils pratiquent en famille, ici avec la chanteuse, pianiste et fille de Sergio, Clarice Assad. Adlib, une pièce de Clarice Assad issue du disque Brazilian Songbook. Chez les Assad, tout le monde fait de la musique et ce disque est le reflet de ce qui pouvait certainement se passer le soir dans la maison de famille. Un brassage joyeux et métissé, le jazz, la bossa, le samba, le classique, tout circule dans les cordes de ces musiciens. Et voici maintenant la fratrie en trio, Sergio, Odair et leur sœur Badi.
Thank you.
a souvent parlé ici du travail colossal de Sergio Assad, compositeur. Il est l'un des plus joués dans le monde de la guitare. Alors bien sûr, il connaît l'instrument dans ses moindres recoins. Ça lui permet d'être inventif dans l'écriture, de pouvoir penser aux interprètes, d'être rapide et prolixe. Certaines de ses pièces sont déjà totalement rentrées dans le répertoire. Et bien sûr, le duo qu'il forme avec son frère a toujours été un terrain d'écriture privilégié. On va écouter quelques-unes de ses pièces, plutôt de jeunesse, toutes très courtes, pas plus de 2 minutes chacune, et issues d'un disque sorti sur le label Nonesuch en 1985.
Thank you.
C'était les frères Assad et leur duo révolutionnaire.
France Musique, guitare, guitare, Sébastien Linares.
Allez, on remonte le temps de quelques jours. Direction la Philharmonie de Paris, on a rendez-vous à la salle des concerts de la Cité de la Musique. Thibaut Garcia et Antoine Morinière sont en train de répéter sur scène les variations Goldberg qu'ils vont jouer le soir même. Comment on se prépare alors à quelques heures d'un concert comme ça, important pour vous j'imagine? Est-ce que vous avez maintenant acquis des petits tips, des petites habitudes entre vous ou,
Oh, on est comme un vieux couple hein, maintenant.
C'est ça.
Maintenant on sait, moi j'ai besoin d'arriver un peu plus tôt, tu vois un peu plus tard, tu vois il fait sa sieste, moi non, voilà.
Exactement, il y aura... On a chacun une façon de fonctionner, ouais c'est vrai.
C'est un peu différent, ouais.
Mais ce qui est rigolo c'est qu'on le découvre vraiment en tournant, parce qu'avec Antoine on a fait des concerts de temps en temps depuis 10 ans, mais on n'a jamais tourné. Et quand on tourne ensemble, on découvre des habitudes de voyage, en effet de rituels d'avant-concert et tout. Et c'est vrai qu'il y a cette... Moi, j'adore faire 20 minutes de sieste avant le concert. J'adore ça.
Toi, power nap.
Ouais, toi, t'es pas très power nap, par exemple.
J'en ai pourtant fait une aujourd'hui, comme quoi mon inconstance me caractérise. Mais oui, on est un peu différents. Après, sur les habitudes typiquement de voyage et autres, je pense qu'on est assez raccord. Mais, mais sur le jour même, on est un peu différents. Par exemple, moi, j'ai besoin de tout jouer. Je parcours tout le concert et donc ça me prend 2-3 heures au moins. Et toi, je pense que...
Oui, mais là, c'est lui qui a raison, pour le coup. Non, mais là, c'est... Oui, c'est-à-dire que je préfère le faire. En fait, j'aime pas...
Ensemble, vous prenez pas le temps de le faire, forcément. Vous faites début, fin...
On le faisait, on le fait plus.
Ouais, ce qu'on garde quand même, c'est faire les débuts. Les départs, un peu, de chaque variation. Parce que donc là, c'est quand même un projet avec 30 variations. Donc on a quand même, finalement, 30 départs à faire.
Thank you.
votre interprétation, travailler beaucoup l'homogénéité acoustique et musicale. Et l'homogénéité, ça se travaille pas que musicalement, alors ça se travaille aussi dans ces espèces d'accords qu'on passe de la vie, du quotidien, en tournée, etc.
Bah, nous, on est quand même meilleurs copains dans la vraie vie, donc en fait...
Ça joue musicalement aussi,
je pense que ça joue, clair. Mais je sais plus qui c'est qui disait, je sais plus quel guitariste, c'était pas la Goya qui disait qu'il fallait être, pour être un bon duo, il fallait être ou frère et sœur, ou mari et femme. Ou meilleurs copains, quoi. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas, en fait.
Et musicalement, ça se travaille comment, cette homogénéité ? Travail acharné, ou c'est un truc un peu naturel là aussi, qui des affinités à la base?
Bah, y a beaucoup d'écoute, que ce soit sur scène, mais en répète aussi. On est très à l'écoute l'un de l'autre et de chaque proposition. C'est-à-dire que quand Thibaut ou moi proposons quelque chose, l'autre va toujours, même s'il est sceptique, va toujours laisser la chance. On essaye, et souvent on a des bonnes surprises. Ah ouais. Et je pense que c'est... Je pense que c'est ça qui fait un peu notre force pour avoir aussi monté ce projet-là avec cette exigence et ce rendu qu'on essaye d'avoir. C'est ce côté, on se fait confiance et je pense que c'est important.
Pendant le rush, c'est-à-dire en concert, est-ce qu'il y a des habitudes qui s'installent? Est-ce que ici on souffle? Est-ce que à un moment donné tu baisses la main apparemment?
Ça c'est nouveau, ça.
C'est nouveau, c'est nouveau.
Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des habitudes? Est-ce qu'on se dit, ah, tiens, à telle variation, tu sais comment l'autre un peu va réagir? Ou est-ce que ici on respire, ici on repart? Est-ce que vous sentez ce truc-là ou est-ce que c'est différent tout le temps?
Si, il y a certaines variations où il y a des. Alors il y a des choses individuelles. Par exemple, il va y avoir un endroit où on sait que l'autre va reposer sa main parce que c'est le seul endroit de l'œuvre où il va pouvoir le faire, donc il va reposer sa main pendant 2 secondes. Il va y avoir aussi des choses que je dirais pas où qu'on garde pour nous, mais où on a besoin chacun de l'approbation de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, dans un passage, il va y en avoir un qui va regarder l'autre un peu en « c'est bon là, c'était bien ». Et en fait, maintenant...
C'est moi qui regarde.
Tu es d'accord?
Oui, complètement. Mais
c'est un peu ça. Okay. Et du coup, il y a la validation, quoi. Ouais. Aussi, parfois pendant le concert, et c'est assez rigolo parce que ça crée de l'interaction.
Ouais, parce que mine de rien, le son qu'on produit, moi je le produis depuis ma guitare, Thibaut depuis la sienne. Donc le rapport acoustique, il est déjà très différent entre nous deux. Ouais. La place idéale pour nous entendre, c'est dans le public finalement. On rêverait d'avoir une oreille dans le public pour pouvoir entendre finalement qu'est-ce qui sort vraiment de nos deux guitares.
On a besoin de, je pense, de soutien et de liberté dans la relation du duo pendant l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont plus durs pour l'un que l'autre à certains moments, et ça s'inverse souvent. Et on sent que Antoine me disait l'autre jour, il me disait, tu vois, là, par exemple, n'hésite pas à venir me chercher, même physiquement. Tu vois, et ça, c'est important. Et à la fois, la liberté, dans le sens où, je pense notamment à la variation 25, Antoine qui chante vraiment dans les suraigus, je dois être là. Le laisser chanter, être juste là pour lui, mais vraiment qu'il ait cette liberté de chanter et que je sois au service d'eux. Pareil, inversement dans la 13. Enfin, c'est toute cette relation qui fait que parfois on est vraiment ensemble collés et parfois c'est je te laisse ta liberté et tu chantes. Il n'y a pas trop de jugement dans les propositions qu'on va faire.
C'est ça, il y a beaucoup de « ok, on essaie ».
Il y a un truc, c'est qu'Antoine, par exemple, quand on était au CNSM, il nous donnait des cours d'improvisation de théâtre. Et moi, il y a un truc... Non, mais il y a un truc qui est important, que j'ai appris, c'est la première proposition, on l'accepte. Et en fait, celui qui va proposer quelque chose, que ce soit l'ornementation, le phrasé, on va l'accepter, on va essayer d'aller là-dedans. c'est important, je pense, dans le live.
Oui, oui, ouais, c'est essentiel. Et d'ailleurs, ce qui est assez chouette, je trouve, c'est que on sait aussi où est notre terrain de jeu commun et notre terrain de jeu à chacun. C'est-à-dire, typiquement, dans certaines variations, Thibaut chante dans l'aigu. Et ben, peut-être que moi, je l'aurais fait différemment.
Oui.
Mais en fait, c'est lui qui chante et c'est tout à fait cohérent. Et du coup, je le suis et je l'accompagne avec grand plaisir.
Il y a à la fois ce côté complètement fusionnel et à la fois les individualités qui sortent quand même. Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui est particulièrement réussi, en tout cas, dans votre...
Alors, justement, pour reprendre un adage, parce que, pour le coup, c'est mon père a fait beaucoup d'improvisation et c'est lui qui m'a initié à ça. Et sa maxime, c'est « deux solitudes heureuses
».
Et c'est un mantra qui est écrit au début de la pièce. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, on se retrouve, mais on arrive à vivre un peu chacun de notre côté et se retrouver. Et voilà.
Pour encore continuer dans les similitudes et les différences, vous avez des versions de référence, vous êtes d'accord sur les versions de référence que vous écoutez ou pas trop?
On a beaucoup échangé de références, on n'écoutait pas les mêmes choses au début, à part Gould,
oui.
Évidemment, à part Glenn Gould.
Au biberon.
Le biberon, en fait. Mais bon, à un moment donné, on a eu besoin de couper le cordon aussi, avec Gould, si on continue la métaphore. Mais c'est compliqué d'avoir... une version de référence, je trouve. Parce que quand tu as 32 mouvements, il y a forcément des variations que tu aimes énormément, ou une construction chez l'un et que tu préfères chez l'autre à d'autres variations. C'est compliqué. En fait, il faudrait faire une compile des versions de référence pour créer la version. Ce serait une espèce de chimère de référence.
Ça serait bon, ça, ouais.
Pour moi, dedans, il y a quand même Beatrice Rana pour l'intelligibilité, la précision, la classe. Nicolas Angelich, quand même, avec un toucher soyeux. C'est quand même très beau. Et puis des clavecinistes, quand même.
Oui, bien sûr.
T'en as, toi ?
Oui, Jean Rondeau, Pierre Entaille, si on doit parler du clavecin, je trouve ça fascinant.
Ouais.
Après, je pense, Thibaut, je pense que t'as un peu plus écouté que Boile et Goldberg. C'est vrai que moi, j'ai un peu une autre façon de voir les choses. J'écoute un peu moins les œuvres jouées par d'autres musiciens. J'écoute, évidemment, mais j'essaye, je sais pas. Je suis un peu une éponge, donc en fait, j'ai l'impression que si j'en écoute trop, je vais finir
par... Me donner pas trop d'idées.
Ne plus être... Oui, il y a un peu de ça. Peut-être ne plus être vraiment moi-même, alors que j'ai l'impression que toi, t'arrives bien à faire ce distinguo.
Et même l'autre jour, intéressant, on jouait à la radio et on pouvait pas jouer toutes les Goldberg, et on finissait par le Quolibé.
Ouais.
Et on s'est dit, mais vu qu'on finit par le Quolibé, est-ce qu'on jouerait pas différemment aujourd'hui ce Quolibé, comme s'il avait un autre rôle dans ce cycle-là?
Ouais.
Et du coup, c'est la première fois qu'on l'a joué différemment, c'était intéressant. Mmh.
Parce qu'en fait, les Goldberg aussi, on pouvait les jouer variation par variation, on pouvait les tronquer, on a toute cette première partie avec les réouvertures et tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être aussi, après l'aventure de toutes les variations, c'est magnifique, et d'autant plus à deux. Mais on peut aussi jouer en tronquant, finalement.
Oui.
C'est
un truc mais, qui. Mais ça, ça, nous a, ça nous étonne justement quand on les joue un peu seul, c'est que, on en discutait hier. Moi, j'avais besoin, pour bien rentrer dans la justesse d'une variation, qu'elle soit chargée de toutes les autres.
Ouais. Oui.
En termes d'énergie, en termes d'émotion. Et évidemment, on peut les jouer comme des pièces en soi, mais ça devient un travail très différent, je pense.
Oui, c'est vrai.
Les variations de Goldberg, peut-être la toute première fois avec Eric Belloc, qui était notre professeur de musique ancienne au Conservatoire de Paris, et il avait une façon de parler de l'interprétation figée, comme tu dis très justement, qui était la version frigo. C'est-à-dire, on la travaille, et puis quand c'est prêt, on la met au frigo, on n'y touche plus, et on ressort que pour le concert, et on fait exactement la même. Et je trouve que c'est assez amusant ce rapport-là. Et on essaye au contraire de faire une version, de cuisiner à chaque fois.
Ouais, c'est ça.
Ben voilà, qu'en fait, on se surprenne, on évolue. Et en vrai, entre chaque concert, on change plein de choses.
Oui.
Et ce qui est certain, c'est qu'entre ce qui est prévu maintenant et dans 2 heures, ce sera sûrement très différent.
Légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, à nos micros, Élodie Brustowski.
Alors, j'aimerais vous parler d'un guitariste de légende, Marco Aurelio Zanni de Ferranti. Assez méconnu aujourd'hui, il a pourtant mené une carrière importante au XIXe siècle et son talent a été salué par les plus grands musiciens de son temps. On peut citer par exemple Hector Berlioz, Niccolo Paganini ou encore François-Joseph Fétis, un critique musical très redouté. Zanni de Ferranti est un personnage haut en couleur, aux aventures assez incroyables. Guitariste, il était aussi poète et philologue. On ressent bien cette double casquette dans sa musique qui est très poétique et pleine d'humour et d'excentricité. Ses aventures l'ont emmené dans toute l'Europe. Zanni de Ferranti s'exile à Paris comme l'ont fait de nombreux guitaristes italiens, que ce soit par conviction politique ou pour tenter de faire carrière. Il ne rencontre pas le succès de ses compatriotes Carulli ou Molino et se lance alors dans un voyage en Russie. Là-bas, il rejoint des organisations secrètes aux idées révolutionnaires et mène des histoires d'amour tumultueuses. Il est alors chassé de Russie et condamné une fois de plus à l'exil. On disait de Zanni de Ferranti qu'il avait découvert le secret pour tenir les sons sur la guitare et faire chanter sa chanterelle comme une voix émue d'une tendre expression. En tout cas, sur ses partitions, rien n'est laissé au hasard et de nombreuses indications, doigtés, glissades, accents et autres ornements sont indiqués, pouvant paraître assez surprenants pour les guitaristes d'aujourd'hui. J'ai donc choisi de vous jouer 3 courtes pièces extraites de ses Nocturnes bibliques, un cycle de 6 pièces au titre assez énigmatique, surtout quand on entend cette musique. C'est difficile d'imaginer où est l'inspiration biblique dans ces pièces un peu loufoques. Il me semble que ces 3 pièces dressent un bon portrait de ce personnage rocambolesque. La première est poétique, très délicate. La deuxième est excentrique, pleine de liberté et de dramaturgie comme un petit opéra. Enfin, la dernière conclut le cycle avec beaucoup d'humour et de sensibilité. Ces 3 pièces seront jouées sur une guitare originale des années 1830 du luthier français Kof Gogget, qu'il a fabriqué à Mirecourt, la fameuse ville de la lutherie.
Thank you.
C'était Elodie Broustowski dont vous pouvez guetter la sortie du disque à venir en janvier prochain sur le label Parati. Ça s'appelle Paris-Bruxelles 1830. Guitare-Guitare était aujourd'hui réalisé par Patrick Lérissé, enregistré par Pierre-Henri et préparé avec l'aide de Nelly Portal. On se retrouve la semaine prochaine et on aura l'honneur d'avoir Chris Seely dans nos studios, le génie américain de la mandoline. On lui consacrera l'émission en entier. En attendant, rendez-vous en ligne sur le site, sur nos réseaux sociaux, sur l'appli Radio France. Vous pourrez vous abonner à nos podcasts, regarder nos vidéos, consulter les programmes en détail et même échanger avec nous si le cœur vous en dit.
France Musique.